Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue à ce 12e épisode des rendez-vous du reporting de durabilité qui est aujourd'hui dédié au climat dans les comptes et au reporting de durabilité. Alors, nous avions déjà abordé ce thème il y a exactement un an et l'objectif était alors de sensibiliser sur les zones d'interaction entre les risques climatiques d'une part, les informations qui sont fournies en dehors des comptes et puis les comptes. Alors, cette conférence anticipée aussi sur les enforcement priorities de l'ESMA et les recommandations de l'AMF qui sont parues un petit peu plus tard dans la perspective des comptes 2021, mais elle faisait aussi écho à diverses initiatives de groupes d'investisseurs comme l'IGCC, Climate Action 100+, et d'autres. Alors aujourd'hui, on vous propose de faire un point d'étape, de faire une pause pour regarder ce qui a été accompli et envisager la suite. Alors pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné de Marie Seller, qui est directrice des affaires comptables de l'AMF, et de Claire Berthier, qui est CEO de Trust Team Finance, qui est une société de gestion de portefeuille. Mais Claire est surtout présente aujourd'hui en sa qualité de coprésidente du groupe Climate Action 100+ et du groupe de travail Paris Aligned Accounts de l'IIGCC. Alors Claire a donc été une des chevilles ouvrières des actions des investisseurs, qui sont très sensibilisés sur le sujet du climat, et pourra nous apporter un éclairage utile des investisseurs qu'elle représente. Côté PwC, je suis également entouré de Marie Henry, qui est senior manager, Olivier Muller, directeur, et Cédric Hazer, associé. À l'agenda aujourd'hui, dans un premier temps, on commencera par quelques rappels, et ensuite nous aurons deux parties dans lesquelles nous alternerons entre des rappels techniques et puis des éléments de benchmark, d'un benchmark qui était réalisé par PwC sur les informations publiées au titre de 2021. Marie Seller et Claire Berthier auront la possibilité de réagir sur ces premiers constats et nous terminerons par les attentes et les perspectives pour 2022. Cette partie sera largement dédiée à un échange avec Marie et Claire. Je précise que tout au long de cette WebEx, vous pouvez poser des questions et auxquelles nous pourrons répondre à la fin. Alors, je cède maintenant la parole à Olivier Muller pour un rappel du contexte et des enjeux. Olivier. Alors, Olivier, un problème de micro. Donc, il faut effectivement trouver le bouton.
Clic.
Voilà, on t'entend, Olivier.
Ah, ok, très bien. Bonjour à tous. Effectivement, je vais vous présenter un peu le cadre, notamment du GIEC, et comment est-ce que les risques climatiques peuvent impacter finalement les comptes des entreprises. Alors, le changement climatique, sur la slide suivante, on en voit tous déjà des manifestations à travers la réduction des rendements des cultures, certains dégâts qui existent déjà sur les récifs coralliens ou des petits glaciers qui commencent à disparaître dans les Alpes. Mais l'idée, c'est qu'au fur et à mesure que la température va continuer à augmenter si on n'arrive pas à la contraindre, les manifestations donc, du changement climatique vont devenir exponentielles avec cette hausse des températures. On aura à la fois donc des aspects qui sont liés à l'environnement naturel, mais également de plus en plus de manifestations qui sont liées aux sociétés humaines, notamment du fait qu'on a des grandes villes près des mers, etc. Et donc le niveau d'eau augmentant, on aura de plus en plus de conséquences, également des famines. Voilà. Donc voilà, on a cette alerte du GIEC notamment, qu'il faut réduire autant que possible cette augmentation de la température. Alors, le GIEC, justement, dans son dernier rapport numéro 6, qui s'est échelonné en 3 tomes dans les derniers mois, nous fait plusieurs constats. D'abord, le constat qu'effectivement, ces augmentations non jugulées du changement climatique vont avoir toute une série de conséquences qu'on sait prévoir globalement, si on ne fait rien. Et notamment, parmi tous les chiffres, j'en garderai notamment un, 3,3 à 3,6 milliards de personnes qui vivront dans des conditions hautement vulnérables au changement climatique. Donc c'est vraiment voilà, des conséquences systémiques sur l'ensemble des populations humaines. Ça, c'est sur le constat. Maintenant, si on passe au volet solutions, effectivement, puisqu'il y a encore des solutions, une voie pour contenir toutes ces évolutions, le GIEC fait plusieurs constats, notamment le fait qu'il y a l'urgence à agir. On a quelques années pour commencer dès maintenant, donc les années 2020 seront critiques, et il faut absolument que d'ici 2025, globalement, nos émissions de gaz à effet de serre globales sur Terre commencent à diminuer. Et d'autre part, ils mettent aussi en avant, les experts du GIEC, l'importance des financements à avoir sur les années 2020-2030 par rapport au financement actuel de la transition énergie. Donc, globalement, au niveau d'une entreprise, le changement climatique est apprécié selon ce qu'on appelle généralement une double matérialité, c'est-à-dire qu'on va à la fois regarder l'impact de l'entreprise sur l'environnement et à l'inverse, l'impact de l'environnement sur l'entreprise. Donc si on s'intéresse à l'impact de l'environnement sur l'entreprise, là on va être sur les aspects risques et opportunités. Et si on est plutôt sur l'impact de l'entreprise sur l'environnement, là on parle d'impact, donc de tous les aspects liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la fois sur les activités propres de l'entreprise, donc c'est ce qu'on va appeler plus loin le scope 1, mais également sur les relations fournisseurs et les devenirs des produits de l'entreprise chez les clients. Donc c'est tout ce qu'on appelle le scope 2 et le scope 3 des émissions de gaz à effet de serre. Donc tout cela se traduit par un certain nombre de risques de transition, donc généralement on classe en quatre catégories, les risques réglementaires, technologiques, de marché, de réputation, et des risques physiques qui sont soit chroniques, donc qui évoluent lentement sur des longues périodes, soit des risques plus soudain, comme les aléas qui sont à l'échelle de quelques jours ou de quelques heures. Donc au total, sur le rapport annuel, donc il faut le reconcevoir comme étant à la fois la somme des états financiers, mais également le nouveau reporting de durabilité qui prend en compte ces deux aspects de la double matérialité. Marion, je te passe la parole, ou Olivier ?
Oui. Donc, du coup, sur la tendance qu'on a pu observer aussi cette dernière année, on a observé une accélération des initiatives autour du risque climatique qui concerne le reporting aussi bien financier que le reporting de durabilité. Du côté des investisseurs, les attentes sont croissantes et au niveau mondial. Certains investisseurs se sont notamment mobilisés au sein de groupes tels que le Climate Action 100+, et qui regroupe plus de 700 investisseurs, ou de l'IEGCC, qui est le relais européen de cette initiative. Ces groupes se sont exprimés en insistant notamment sur l'importance de la transparence du reporting financier, afin que les hypothèses comptables sur le risque climat soient cohérentes avec les objectifs des accords de Paris, mais aussi sur l'importance de la cohérence entre les informations financières et extra-financières. De manière générale, notre étude PwC a relevé que près de 80% des investisseurs considèrent la gestion des risques et des opportunités ESG comme essentielle dans leur prise de décision et que la mise à disposition d'informations détaillées de la part des groupes est donc importante pour eux. Plus récemment, en septembre 2021, on vous l'avait déjà présenté lors de précédentes webcasts, c'est un rapport rédigé par l'initiative Carbon Tracker qui a été relayé dans la presse et ici qui a été plutôt critique sur les états financiers des groupes ainsi que sur les travaux menés par les auditeurs. Il avait notamment conclu à l'absence ou l'insuffisance d'informations dans les comptes, pas ou peu de visibilité sur les hypothèses et estimations liées au climat et peu d'éléments montrant la prise en compte par les auditeurs du risque climatique. De leur côté, les régulateurs et normalisateurs ont également communiqué fin 2021 pour appuyer l'importance de la prise en compte des risques climatiques dans les états financiers, sans pour autant que les normes comptables ne changent, et ont placé ce point dans leurs priorités pour la clôture 2021. Enfin, peut-être très récemment, de nouveaux standards s'appliquant au reporting de durabilité ont été publiés au format d'exposure draft pour le moment, mais on constate de nouveau que les climate disclosures sont des premiers sur la liste pour l'ISSB et la SEC.
Merci Marion, merci Olivier. Donc, du coup, maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième, au deuxième volet. Et avant de passer à ce deuxième volet qui porte sur ensuite la dimension benchmark, Marion, donc est-ce que tu peux nous expliquer la méthodologie qui a été retenue pour la réalisation du benchmark ?
Oui, tout à fait. Donc en fait, on a réalisé une analyse sur les publications annuelles 2021. On s'est basé sur deux indicateurs que sont le CAC 40 et l'Eurostock 50 afin d'avoir un panel français mais aussi une représentation européenne des groupes. Lors de notre analyse, on s'est concentré sur trois axes qui sont l'impact du risque climat dans les états financiers, les impacts présentés aussi dans le reporting de durabilité et enfin la prise en compte par les commissaires aux comptes dans leur diligence annuelle. Pour rappeler, le panel observé, du coup, concerne 70 groupes qui ont publié leur communication annuelle, leur rapport annuel, que ce soit sous forme d'URD donc, ou de rapport annuel, et qui ont clôturé soit au 31 décembre 2021, soit au 30 janvier 2022. Ça permet de couvrir 11 pays, plus ou moins représentés du coup dans notre panel avec une forte majorité française évidemment, et de couvrir également toutes les industries, que ce soit les acteurs des marchés financiers ou toutes les industries et services de l'économie.
Alors, dans cette deuxième partie, on aborde maintenant le climat dans le reporting de durabilité. Donc, premièrement, on va regarder la réglementation applicable, puisqu'effectivement, on a déjà, certains éléments réglementaires, la prise en compte, les exigences en matière de climat. Notamment actuellement sur le périmètre européen, donc on a une directive, en France, DPEF est l'acronyme de la transposition de cette directive NFRD, qui demande déjà explicitement à l'émetteur en fait, de parler en fait, de ses conséquences sur le changement climatique, de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit. Donc on a déjà cette demande qui est formulée, donc qui parle de la situation actuelle. Néanmoins, on n'a pas actuellement d'injonction sur l'analyse de scénarios climatiques, donc vis-à-vis de notamment la résilience de l'entreprise, vis-à-vis de ce qu'on a vu tout à l'heure sur les évolutions possibles du climat, et pas d'obligation d'en reporter. Ce qui viendra avec la CSRD, donc qui sera applicable a priori à partir de 2025 au niveau européen. Donc ces textes-là concernent tout type d'entreprise dans tout type d'industrie, y compris les acteurs des marchés financiers. Le deuxième texte que nous avons retenu, la loi énergie-climat, concerne, elle, uniquement les acteurs des marchés financiers et elle prévoit effectivement que ces acteurs-là soient en mesure eux-mêmes de reporter sur l'impact qu'ils peuvent avoir et sur les risques que peuvent générer l'environnement sur un fonds, par exemple, ou sur l'asset management. Et pour ça, ils ont besoin, eux-mêmes, ces acteurs financiers, d'avoir des informations transmises par les émetteurs du secteur non financier, donc d'avoir une remontée d'informations au sein de leur propre déclaration et pour répondre eux-mêmes à leurs exigences de cette loi énergie-climat, notamment son article 29. Alors, un certain nombre de textes de loi actuels et futurs sont inspirés par ce qu'on appelle la TCFD, donc la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, qui était un groupe de travail qui a été mené au sein d'un groupe d'appui au G20 en 2017, notamment, qui s'est traduit par un rapport qui a été très suivi par les États, mais également par un grand nombre d'entreprises qui se sont emparées du sujet pour justement préparer les évolutions réglementaires et de fait, cette TCFD donc, est maintenant considérée comme un pilier par de nombreuses démarches de normalisation, que ce soit au niveau européen dans les travaux de l'EFRAG, donc qui prépare la future CSRD, mais également au niveau américain par la SEC, en fait se nourrit d'une partie des recommandations de la TCFD, et voilà, et c'est également repris par un certain nombre de pays en Asie notamment. Notamment, voilà, les quatre piliers qui sont bien connus dans la TCFD concernent finalement comment opère l'entreprise en relation avec le changement climatique sur l'angle gouvernance, sur l'angle stratégie, gestion des risques et le reporting, les objectifs dont se dote l'entreprise. Au niveau de la gouvernance, il s'agira pour l'entreprise d'être capable de parler de comment est-ce que la direction de l'entreprise s'est emparée du sujet du changement climatique et est capable de l'intégrer dans son discours d'orientation générale de la stratégie, de la politique de l'entreprise. Au niveau de la stratégie, c'est comment est-ce que quand on articule la stratégie, quand on prend des grandes décisions de l'entreprise, on a bien intégré le changement climatique à sa juste place. La gestion des risques, là aussi, va considérer le changement climatique comme étant un facteur de risque comme un autre. Et donc, dans l'organisation, est-ce que l'entreprise a bien pris en compte ce changement climatique à sa juste mesure? Et concernant les objectifs, là aussi, l'entreprise peut déjà avoir d'un côté, effectivement, son calcul d'impact et ses objectifs relatifs à la réduction de cet impact. Il s'agira également de prendre en compte des objectifs relatifs à la mesure et à la gestion, la maîtrise des risques climatiques.
Merci Olivier. Du coup, peut-être en introduction, dans les slides suivantes, les chiffres qu'on va vous présenter se concentrent sur l'analyse de l'application des recommandations de la TCFD qu'Olivier vient de rappeler. Mais le reporting de durabilité, évidemment, ce n'est pas que la TCFD. Et notamment en 2021, on a vu aussi apparaître une nouvelle application du règlement taxonomie. Donc, on souhaitait aussi porter à votre connaissance qu'un webcast sera disponible prochainement en replay sur notre site internet et qu'il intégrera aussi, alors pas seulement, mais aussi un retour sur les publications des notes taxonomie des rapports annuels 2021. Donc, pour passer maintenant à l'application des recommandations TCFD, tout d'abord, de manière plus high level, combien de groupes ont appliqué la TCFD dans les publications 2021? On a recensé 62 groupes, ce qui représente 89% du panel étudié. Et qui mentionnent la TCFD dans leur URD ou leur rapport annuel. Sur ces 62 groupes, 9 d'entre eux indiquent que les travaux restent en cours et qu'ils vont continuer à développer ces recommandations au cours de l'année 2022, notamment sur les analyses de scénarios ou sur les estimations du total des émissions scope 3, qui sont des gros chantiers pour les groupes. Au-delà de ces 9 groupes qui mentionnent explicitement que les travaux restent à mener, on constate sur l'ensemble du panel que le niveau de profondeur des informations présentées est très hétérogène. C'est ce qu'on détaillera avec Olivier par la suite, avec les informations par pilier. Et enfin, peut-être un dernier constat de cette première overview, c'est qu'on peut avec fierté peut-être voir que les groupes du CAC 40 ont une petite avance en termes de proportion sur l'application des recommandations de la TCFD. En effet, Olivier l'a mentionné, ils se sont engagés fin 2021 à suivre ces recommandations et c'est a priori ce qu'ils mentionnent dans leur publication annuelle. On a un seul groupe du CAC 40 qui aujourd'hui ne mentionne pas la TCFD. Ensuite, très rapidement, on souhaitait vous présenter les différents formats que l'information relative aux recommandations de la TCFD pouvait prendre dans les documents annuels et notamment mettre en avant l'utilisation croissante de tables de concordance permettant de retrouver les réponses aux 11 recommandations puisque près de la moitié des groupes l'utilisent et ça nous semble être une bonne pratique pour faciliter la lecture et retrouver ces informations dans les comptes. Voilà, c'est ce qu'on souhaitait porter à votre connaissance très rapidement. Et donc, on va passer par la suite à l'approfondissement sur les différents piliers de la TCFD. Donc, pour commencer, peut-être simplement vous dire qu'on ne va pas détailler l'ensemble des 11 recommandations, mais on a analysé l'application de certaines d'entre elles afin de pouvoir mettre en avant des tendances dans les pratiques ou les informations présentées en 2021. Concernant la gouvernance, on a 91% des groupes du panel qui décrivent la gouvernance appliquée aux enjeux climatiques. On observe des modes d'organisation différents avec deux tendances qui ressortent. Principalement qui sont la mise en place d'un comité dédié spécifiquement à la gestion du risque climatique. Ça représente 40% du panel, 42% pour le CAC 40 sur 2021. Sur le CAC 40, en 2020, on avait observé seulement 25% des groupes qui présentaient un comité dédié à la gestion du risque climatique, ce qui montre une tendance à vouloir se concentrer aussi sur ce sujet-là pour les groupes du CAC 40. La deuxième tendance peut-être, c'est d'avoir un comité RSE au sens large, mais qui couvre également le sujet du risque climatique et ça représente 39% de notre panel. Une petite note que l'on fait, c'est qu'au-delà des groupes qui disent appliquer la TCFD, on remarque qu'une gouvernance dédiée à ce sujet-là et au sujet RSE se retrouve également chez les groupes qui ne mentionnent pas forcément l'application des recommandations de la TCFD. Concernant le pilier de gestion du risque, on a 87% des groupes du panel qui décrivent les processus d'identification et d'évaluation des risques climatiques, que ce soit les risques physiques de transition, sur lesquels Olivier reviendra ensuite. Toujours un niveau de détail très hétérogène sur l'ensemble du panel. Néanmoins, on peut observer que 50% des groupes ont un niveau de détail assez élevé qui reprend les personnes impliquées, la gouvernance, les outils, les méthodes utilisées dans tout ce processus-là. Au sein du CAC 40, cette proportion passe à 66%, donc là aussi une petite avance des groupes du CAC 40 par rapport à ceux qu'on peut observer dans l'indice Eurostock 50. Et Olivier, je te passe la parole pour l'approfondissement sur les deux prochains piliers.
Merci Marion. Alors effectivement, sur l'aspect stratégie, ce qui est marquant donc, et fort nouveau dans les recommandations de la TCFD, c'est toutes les communications autour de l'analyse du risque et des scénarios climatiques. Donc sur ce sujet-là, effectivement, on a une grande hétérogénéité. C'est-à-dire qu'on a à peu près un quart du panel, donc 23%, qui ne parle pas du tout de la gestion des risques. Et à l'opposé, 31% des sociétés du panel qui font une description très détaillée des risques et des opportunités, éventuellement en prenant en compte l'horizon de temps. Puis entre les deux, il y en a 29% qui ont une description succincte, et puis 17% pour lesquels il y a une description plus développée. Donc voilà, donc ça c'est la première observation, et c'est tant sur les risques physiques que les risques de transition. Donc les entreprises qui s'intéressent aux risques vont traiter bien les deux sujets complémentaires de l'analyse des risques. Et au total, donc on a 77% des sociétés du panel qui s'intéressent à cette question. Donc voilà, on peut considérer que c'est déjà une belle progression, mais voilà, on n'est pas encore à l'ensemble des sociétés qui prennent en compte ces sujets édictés par la TCFD. Alors, si on rentre un peu dans le détail de l'analyse notamment des scénarios, là, on a 53 sociétés du panel qui font état d'analyse de scénarios, avec au moins deux scénarios, comme le demande la TCFD. Certaines, donc 5, disent qu'elles sont encore en train d'y travailler. Alors, à travers cette analyse de scénario, on voit différents horizons ressortir principalement. L'horizon premier, c'est 2050, mais on a également pas mal d'entreprises qui s'intéressent à l'horizon 2030, voire la fin du XXIe siècle. Et entre les deux, il y a aussi 2035-2040. Donc, il y a voilà, un choix qui est fait de se projeter à différents horizons. Et deuxième sujet qui est identifié par la TCFD comme étant important, c'est quel horizon, quel scénario finalement on envisage dans le futur. L'essentiel, on peut revenir sur le graphique précédent, c'est la partie droite. Donc on a énormément de sociétés qui se projettent dans un scénario 2 degrés, donc on respecte l'accord de Paris, voire 1,5, qui est vraiment l'objectif ultime de l'accord de Paris. mais également des scénarios à 4 degrés, donc des scénarios où on serait plus proche du business as usual, c'est-à-dire qu'on n'arriverait pas collectivement à mettre en œuvre suffisamment de règlements et d'actions d'entreprise pour juguler le réchauffement climatique. Et puis toute une série intermédiaire. Donc on a une palette assez large finalement de scénarios utilisés. Et une trentaine de sociétés qui se font mention du GIEC et des différents scénarios du GIEC. Donc globalement, on a pas mal de sociétés qui s'intéressent à ces risques climatiques. Maintenant, si on regarde sur les objectifs et les KPI, la manière dont les entreprises se fixent des objectifs. Alors là, on a 94%, donc pratiquement toutes les entreprises, qui visent la neutralité carbone à 2050, voire avant. Donc là, par rapport à il y a quelques années, c'est vraiment une augmentation très forte en quelques années de la prise en compte de cette dimension de contribuer à la neutralité carbone de la France et de l'Europe. 80% font référence aux accords de Paris. 2/3 des entreprises font référence à l'initiative donc Science Based Targets qui se charge en quelque sorte de descendre les objectifs des accords de Paris au niveau des entreprises. En termes d'horizon, donc l'essentiel des entreprises, la majorité sont à l'horizon 2050, mais certaines sont également à 2040, voire même avant 2030 ou plus tôt. Voilà, donc on a une hétérogénéité aussi dans l'objectif, l'horizon de l'objectif qu'on se fixe. Alors maintenant, si on regarde en termes de reporting, est-ce qu'on prend en compte le scope 1, le scope 2 et ou le scope 3 dont je parlais, donc 80% des entreprises, quand elles prennent en compte donc ces objectifs, sont au moins sur scope 1 et scope 2. 65% mentionnent également une stratégie pour atteindre cet objectif, et on peut noter que 73% de celles qui ont développé de façon assez importante donc leur discours sur Scope 1 et Scope 2 sont des groupes français au sein de notre panel. Donc au total sur ces Scope 1 et 2, si on rentre dans le détail, on a une forte maturité pour 65% des entreprises puisqu'on a à la fois les données chiffrées et la stratégie pour atteindre l'objectif. On a pour 26% des données historiques et des objectifs, mais sans vraiment mention d'une stratégie. Et pour 9%, on a des données historiques et puis l'année en cours, mais on n'a pas de projection. Voilà, 19% pour lesquels il n'y a pas d'objectif. Voilà, donc on a des niveaux de prise en compte, là aussi, de la TCFD, de stade assez variable. Et si maintenant on passe au scope 3, cette hétérogénéité se confirme également, puisqu'on a bon, d'un côté 79%, donc là aussi une importante majorité des entreprises du panel qui parlent du scope 3. Maintenant, si on regarde dans le détail de quel scope 3 parlent-elles, ces entreprises, effectivement, on n'a que 15% des entreprises du panel qui communiquent de façon détaillée à la fois sur leur scope 3 amont et leur scope 3 aval. L'essentiel des entreprises, donc 56%, ont une communication partielle sur donc une partie du scope 3 amont et ou aval. Et 5% communication partielle en amont ou en aval. Et 24% n'ont pas de communication du tout. Voilà, donc là encore une grande hétérogénéité sur cette communication des objectifs.
Merci beaucoup Olivier. Alors maintenant passons à cette deuxième et troisième partie concernant la prise en compte du risque climat dans les états financiers cette fois. Je pose la question de savoir quels sont les éléments des comptes qui peuvent être sensibles aux enjeux climatiques. Alors sur la slide suivante, que vous voyez projeté à l'écran, nous vous rappelons un schéma qui est issu du rapport de la TCFD et vous pouvez voir de façon illustrée que la comptabilité sur la droite est le réceptacle de la stratégie climat des entreprises. Alors, bien entendu, chaque société n'est pas impactée de la même manière, hein, selon le secteur d'activité, la localisation des actifs ou encore la nature et l'ampleur des risques et opportunités. Mais malgré tout, toutes les entreprises sont potentiellement impactées et un lien important existe entre l'information qui est présentée en dehors des comptes et l'information financière. Alors, quelles sont les normes IFRS applicables? Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on l'a déjà vu, donc c'est plus un rappel. Un rappel d'ailleurs qui a été fait par l'IASB en novembre 2020 à travers un educational material sur les impacts du climat dans les états financiers. Le point à retenir est que même si les normes IFRS existantes ne mentionnent pas de manière explicite les enjeux liés au climat, un certain nombre de dispositions doivent être prises en compte et notamment quand l'impact de ces enjeux est significatif quand on regarde les états financiers dans leur ensemble. Le document de l'IASB liste à titre illustratif un certain nombre de dispositions qui peuvent s'appliquer aux groupes en fonction de leur situation spécifique. Une autre instance internationale, qui est la CDSB, la Climate Disclosure Standards Board, a publié en 2020 également des recommandations pour la prise en compte du risque climat dans les comptes. Et ces recommandations étaient principalement ciblées sur les tests de dépréciation, les sujets des immobilisations corporelles et des provisions. Ce sujet est également une priorité côté régulateur. Fin octobre, l'AMF et l'ESMA ont publié leurs recommandations pour l'arrêté des comptes 2021 et une bonne partie était consacrée aux enjeux climatiques dans les états financiers. Et de son côté, l'AICC avait également publié en septembre 2021 un exemple de lettre de commentaire qu'elle comptait adresser aux émetteurs sur les effets du changement climatique. Et la première question concernait d'ailleurs la cohérence entre l'information financière et extra-financière. Alors, ce qui m'amène à poser une première question à Marie Seller. Marie, est-ce que tu peux nous rappeler quelles étaient les attentes de l'AMF et de l'ESMA pour la clôture 2021?
Oui, bonjour à tous, bonjour Olivier. Comme tu viens de le dire, c'était effectivement le thème central des recommandations AMF et ESMA de l'année dernière. Sans rappeler bien sûr tout ce qu'on avait dit, je pense que ce qu'on disait notamment, c'était qu'il était vraiment important de mettre en œuvre tous les travaux nécessaires pour pouvoir finalement identifier les risques qu'il pourrait y avoir liés au climat et finalement aussi les impacts liés aux engagements qu'avaient pu prendre les entreprises. On a insisté aussi sur l'importance de la cohérence, comme tu viens de le rappeler, la SEC l'avait fait aussi, de la cohérence entre les hypothèses utilisées et les informations qui seraient présentées dans les comptes et dans les autres éléments de communication financière, donc le rapport de gestion, les facteurs de risque. Et on mentionnait également finalement l'importance de présenter dans les comptes tout ce qui était les jugements spécifiques et les hypothèses qui avaient pu être utilisées. En expliquant finalement aussi pourquoi, dans certains cas, des engagements, par exemple, n'avaient pas d'impact sur les états financiers, alors qu'un lecteur aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait des impacts. On avait développé certains thèmes spécifiques sur lesquels vous reviendrez tout à l'heure, notamment les tests de dépréciation. Pour compléter ces recommandations au niveau AMF, on avait publié par la suite un rapport qui présentait finalement un état des lieux du reporting financier et extra-financier sur un échantillon de sociétés cotées, sur les enjeux climatiques. Donc, ce rapport était en trois parties, deux qui étaient plutôt en dehors des comptes et qui traitaient des indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui pouvaient être utilisés par les sociétés pour rendre en compte des enjeux climatiques et les informations qu'elles donnaient sur les engagements qu'elles avaient pu prendre. Et pour montrer finalement le lien qu'on fait avec les comptes, une troisième partie développait l'impact que pouvaient avoir ces éléments sur les comptes et ce qui était indiqué dans les comptes de ces sociétés de notre échantillon. Il y avait un certain nombre d'exemples dans ce rapport qui, effectivement, pour nous, permettaient d'illustrer nos propos et d'accompagner les sociétés dans leur réflexion.
Merci Marie. Alors, je vais me permettre de poser la même question à Claire, mais côté investisseur. Quelles étaient, Claire, vos attentes pour 2021?
Eh bien, nos attentes pour 2021 étaient finalement assez proches de celles de l'AMF. On ne demandait pas de nouvelles normes, mais bien l'application des normes actuelles, et en particulier de mieux comprendre comment est-ce que ces engagements net zéro se reflétaient dans les comptes, et donc pour avoir l'information suffisante pour pouvoir orienter notre capital en alignement avec l'accord de Paris. Donc, plus spécifiquement, suite à l'Investor Expectation qui avait été sorti par IGCC en 2020, On a toujours les 5 mêmes demandes du côté émetteur pour les administrateurs, c'est-à-dire affirmer que les objectifs de l'accord de Paris sont bien pris en compte dans l'élaboration des comptes, deux, ajuster les hypothèses et les estimations critiques en fonction de cette volonté. Ensuite, publier l'analyse de sensibilité, calculer la résilience ou tester la résilience des dividendes face à ces hypothèses et revenir sur la cohérence entre le narratif, la stratégie, ce qui est énoncé d'un côté et les comptes de l'autre. Du côté auditeur, on a 4 demandes qui sont 1. La prise en compte des risques climatiques dans les Key Audit Matters, 2. Donner un avis sur l'alignement avec l'accord de Paris. Donc, confirmer ou infirmer le fait que les comptes ont été préparés avec une trajectoire alignée avec le net zéro 2050. 3. La cohérence, on y revient toujours. Et enfin, le test sur la résilience des dividendes. Donc, plus spécifiquement pour 2021, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que ces indicateurs qui étaient jusque-là simplement des demandes de la part d'investisseurs qui représente quand même près de 3 trilliards de dollars sous gestion, ont été intégrés dans le Climate Action 100 Plus Benchmark en tant qu'un indicateur, en tant que soi, et envoyés donc aux 166 sociétés les plus émettrices dans le monde.
Merci Claire. Alors maintenant, après ces rappels et l'expression, le rappel aussi de l'expression des attentes, observons ce qui a été fait en 2021. Marion, je te repasse la parole.
Merci Olivier. Donc pour commencer, on vous propose une synthèse des éléments qu'on a pu observer dans les états financiers consolidés des groupes de notre panel. Donc je le rappelle, notre panel il est composé de 70 groupes du CAC 40 et de l'Eurostock 50 qui ont clôturé les comptes entre décembre 2021 et janvier 2022. De manière générale et tout sujet comptable et financier confondu, on a 74% des groupes du panel qui ont présenté une information relative à l'environnement qui inclut notamment la prise en compte de risques climatiques, des objectifs de réduction des émissions de CO2, la présentation de quotas de CO2 ou encore la conformité à certaines obligations gouvernementales. Ça représente déjà une forte amélioration par rapport à 2020 où on retrouvait uniquement 32% des groupes qui présentaient une information au sein de leurs états financiers consolidés. Sur la partie droite de la slide, on vous présente un récapitulatif par sujet. Je ne vous le détaille pas tout de suite parce qu'on va y revenir dans la suite de la présentation. Donc sur la slide suivante, on souhaitait également comparer les progressions et les proportions des groupes qui présentaient des impacts du risque climatique dans leurs comptes par indice boursier, ce qui permet aussi grosso modo de faire une comparaison entre les groupes français et européens. On constate donc que sur les deux indicateurs, le nombre de groupes qui présentent des informations a doublé entre 2020 et 2021. Et en proportion, on arrive à 87% des groupes du CAC 40 contre 58% des groupes de l'Eurostock 50, lorsqu'on exclut évidemment les groupes du CAC 40 qui sont dans les deux indices. Par ailleurs, si on regarde les détails qui sont donnés sous nos cercles, on constate que sur les informations relatives aux quotas de CO2, il y a relativement peu de progression. Elles étaient déjà présentes l'an dernier. En revanche, sur l'ensemble des autres axes analysés, on retrouve bien de plus nombreux groupes en 2021 qui ont fait l'effort de présenter des informations, que ce soit de manière générale sur l'impact dans les comptes ou plus spécifiquement sur leur prise en compte dans les dépréciations des actifs ou la revue des durées de vie. Et sur la slide suivante rapidement, l'idée était de montrer par pays et par industrie les évolutions une fois encore entre 2020 et 2021. De manière générale, on peut observer une progression, quels que soient les pays ou les industries. sur les graphiques, c'est présenté davantage en nombre et la France reste bien placée, parce qu'en plus, dans le panel, elle est fortement représentée. Au contraire, on voit des 100% en proportion, mais parce que ce sont des pays qui sont peut-être plus faiblement représentés dans le panel. Grosso modo, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on a 88% des groupes français du coup, qui présente une information en 2021, contre, si on regarde d'autres pays plutôt bien représentés dans notre panel, 56 ou 57% pour respectivement les Allemands ou les Néerlandais, ce qui, une fois encore, place la France comme relativement bon élève dans cet exercice-là.
Merci, Marion. Alors, passons maintenant à une analyse plus détaillée et commençons par quelques rappels. En premier lieu, le sujet qui concerne l'impact général sur les états financiers et notamment l'application de la norme IS1 en lien avec les sources d'incertitude relatives aux estimations. Alors, le changement climatique, c'est une source d'incertitude significative et les hypothèses qu'une entité peut faire sur les scénarios futurs et la probabilité que ces scénarios se déroulent peuvent avoir un impact significatif sur ce qu'une entreprise déclare dans ses comptes. Si les hypothèses qu'une société émet sur l'avenir en lien avec le risque climat présentent un risque important d'ajustement de la valeur nette comptable des actifs et des passifs, alors IS1 exige de fournir un certain nombre d'informations sur les hypothèses, sur la nature et la valeur comptable des actifs et passifs concernés, sur les analyses de sensibilité, les éventuelles modifications apportées aux hypothèses antérieures. En pratique, les hypothèses retenues pour l'établissement des comptes doivent être cohérentes avec les hypothèses et analyses qui sont décrites par ailleurs, par exemple dans l'information ESG de l'entreprise. Un point de peut-être de best practice, la présentation sur les incertitudes peuvent être regroupées pour une meilleure lecture des états financiers. Alors, concernant ce premier thème, Marion, est-ce que tu peux nous détailler ce qui a été observé pour les entreprises du panel sélectionné?
Oui. Donc, sur ce premier point, on a observé donc 52 groupes du panel, ce qui représente 75%, qui ont présenté un impact du risque climatique dans les comptes. Alors, évidemment, de manière variée et hétérogène. Les groupes observés ont majoritairement présenté ces informations dans les parties jugement et estimation ou dans les principes et méthodes comptables, en détaillant ensuite certaines informations dans les notes dédiées au sujet qui les intéressait, très souvent goodwill, immobilisation ou provision. On a pu, du coup, quand on regarde ces graphiques, une grosse majorité a combiné les deux approches de mettre une information générale et de détailler ensuite dans la suite des notes aux états financiers. Une autre information intéressante a été d'observer que 7 groupes présentent une note réellement dédiée au risque climatique dans laquelle ils reprennent l'ensemble des informations relatives à ce sujet et récapitulent parfois certains aspects de leur objectif de réduction des émissions de carbone ou d'investissement. Néanmoins, on observe finalement assez peu de groupes qui font des liens directs entre les parties extra-financières et financières de leur rapport annuel.
Alors, on peut passer maintenant à la partie quota de CO2. Ce sujet n'est pas spécifiquement abordé par les normes IFRS. En France, on peut se référer au règlement ANC 2012-03 sur la comptabilisation des quotas d'émissions à effet de serre. Et de fait, en normes IFRS, en l'absence de référentiel précis, un effort de transparence est d'autant plus important qu'il visera à mentionner à la fois les principes et méthodes suivies, les montants et impacts financiers en jeu et les potentiels risques identifiés. Alors, Marion, qu'as-tu observé en la matière ?
Donc, ce qu'on observe sur les quotas de CO2, c'est que 13 groupes du panel ont présenté une information relative à ces quotas de CO2. 92% présentent la méthode comptable qu'ils utilisent avec, du coup, comme on le répète depuis le début de cette présentation, une hétérogénéité dans le niveau d'information donné. Si on s'intéresse au classement comptable choisi, finalement, entre stock ou IMO, enfin, il n'y a pas une grosse tendance qui s'en dégage. Néanmoins, on peut parfois observer un modèle mixte dès lors que les quotas de CO2 sont utilisés à différentes utilités, qu'ils soient pour un aspect réglementaire ou pour du trading, ou dans ce cas, ils sont davantage en stock. Sur la partie quel type d'informations sont présentées, est-ce qu'on a plutôt des informations qualitatives ou quantitatives, là, de la même manière, on n'a pas une grosse tendance, mais on peut observer qu'il y a quand même 6 groupes qui ne donnent que des informations qualitatives, ce qui veut dire qu'on ne retrouve les montants dans aucun tableau des notes aux états financiers. On vous a présenté un petit tableau par industrie pour vous montrer quelles industries étaient majoritairement représentées dans celles qui présentent des quotas de CO2. Et sans surprise, c'est l'industrie énergie and utilities qui est majoritaire et en deuxième, automobile. Une dernière mention qu'on verra aussi un tout petit peu plus tard, mais qu'on détaille moins, c'est qu'il y a 5 groupes qui mentionnent par ailleurs qu'un risque lié à la fluctuation des coûts de ces quotas de CO2 existe et qui ont décidé de les couvrir, ce coût de CO2, par un instrument de couverture.
Alors, concernant les immobilisations, c'est un sujet important parce que ça représente des sommes, ça pèse lourd dans les bilans. Deux points, la durée de vie et les taxes de dépréciation. Concernant les durées de vie, je vous rappelle qu'elles doivent être revues potentiellement tous les ans. Et concernant les taxes de dépréciation, l'IASB l'avait rappelé, le risque climat est à prendre en compte sur trois dimensions. Déjà, est-ce que ça peut être considéré comme étant un risque de comme un indice de perte de valeur? Il y a la dimension flux et puis il y a la dimension taux d'actualisation. Par exemple, concernant les cash flows, pourrait y avoir des incidences, les effets des réglementations en matière de transition écologique, des engagements que la société prendrait ou bien de l'impact des évolutions et de l'adaptation des modèles. Alors, Marion, sur ce point, est-ce que tu peux partager ce que tu as observé?
Oui. Donc, sur la partie durée de vie des immobilisations, on a observé 22 groupes du panel, ce qui représente 31%, qui disent avoir pris en compte leurs objectifs de réduction des émissions de CO2 ou la transition énergétique dans l'évaluation de la durée de vie de leurs immobilisations. En schéma, on vous présente par industrie quels sont les groupes qui ont donc en nombre de groupes qui ont présenté cette information-là. Donc, tout comme tout à l'heure, les groupes de l'industrie énergie and utilities sont majoritaires avec automobile en second et distribution et biens de la consommation également. Sur ce sujet-là, ce qu'on a observé, c'est que finalement, peu de groupes, voire pas du tout, donnent un impact. Certains disent que l'impact est non significatif et d'autres ne donnent pas la conclusion de leur analyse. Ce qui pourrait être ajouté. On avait néanmoins pu observer en 2020 un groupe qui avait donné des informations chiffrées sur l'impact de dépréciation exceptionnelle liée à la transition énergétique dans l'industrie énergie and utilities. Donc, voilà ce qu'on peut observer sur les durées de vie. Si on passe maintenant au test de dépréciation, on a donc observé 31 groupes du panel cette fois, ce qui représente 44% qui ont pris en compte les changements climatiques ou le risque climatique dans les hypothèses utilisées pour les tests de dépréciation. Donc, dans quelles hypothèses les groupes présentent la prise en compte de ce risque climatique? Majoritairement dans l'estimation des flux de trésorerie futurs à long terme. Un peu moins, il y a 6 groupes dans les différents scénarios qui ont été mis en œuvre. Et puis, finalement, il y a 5 groupes qui ne spécifient pas explicitement dans quelles hypothèses ce risque climatique a été intégré. En termes de thématiques, qu'est-ce qui a été pris en compte? Donc, ça peut, c'est assez varié, mais une grande majorité a utilisé les risques climatiques, que ce soit des risques physiques ou des risques de transition et donc leur occurrence à l'avenir. 23% leur objectif de neutralité carbone, mais également les accords de Paris. Et ensuite, dans des proportions un peu plus faibles, 10% sur les investissements durables, donc des dépenses futures. 10% ont un peu mixé l'ensemble de ces informations. Et enfin, 3% l'évolution et potentiellement l'augmentation des prix des quotas de CO2. De manière générale, on n'a pas observé ou très peu de groupes qui donnent l'impact de la prise en compte, l'impact chiffré de la prise en compte de ces hypothèses dans leurs analyses de tests de dépréciation.
Très bien. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, le sujet climat peut concerner et impacter de nombreux aspects du bilan. Là, on en présente un certain nombre d'autres. Par exemple les provisions, les plans de rémunération, les opérations de financement ou encore la gestion des risques financiers. Alors Marion, est-ce que tu peux revenir sur deux sujets, provisions et financement vert?
Oui. Peut-être avant de passer à la slide suivante, effectivement, au-delà de provisions et financement vert pour lesquels on va faire un petit focus juste après, on a également relevé des informations dans les plans de rémunération pour lesquels il est spécifié que certains indicateurs de performance se basent soit sur les objectifs, enfin, sur l'atteinte des objectifs ESG du groupe ou des objectifs de neutralité carbone. On a également trouvé des informations dans la partie management des risques financiers sur des credit risk ou commodity risk. Et enfin, sur des plans d'investissement, donc sur des dépenses engagées dans le cadre soit de R&D, soit pour la transition énergétique. Donc, si on passe à la slide suivante sur le focus provision, on peut observer, donc on vous a rappelé sur la gauche de la slide tout un panel de facteurs environnementaux qui pouvaient mener soit à l'enregistrement d'une nouvelle provision, soit à la réévaluation d'une provision existante. Donc, que ce soit lié à des nouvelles réglementations, des nouvelles taxes, le jugement lié à un litige, lié à des activités polluantes, la révision de certains scénarios, justement, en fonction des trajectoires du groupe, en fonction d'objectifs du groupe, et du coup, que tout ceci devait être reflété toujours avec le principe IAS 37 de la meilleure estimation possible, et que donc, présenté de manière détaillée dans les comptes. Sur ce sujet, on a donc 31 groupes, ce qui représente environ 40% qui qui présentent des provisions, que ce soit environnementales ou sur le risque climat. 27 en présentaient déjà en 2020, donc la progression est finalement assez faible sur ce sujet en comparaison avec ce qu'on a pu observer sur les autres sujets précédents. Et finalement, en termes de provisions, on a une grosse proportion sur les provisions de démantèlement, de litige, qu'on connaissait déjà l'an dernier, voire les années précédentes. Si on passe maintenant au financement, donc on observe 20 groupes, c'est-à-dire un peu moins de 20% qui indiquent avoir mis en œuvre des financements verts ou durables en 2021 contre 10 en 2020, donc ça a doublé. On voit que ces financements sont de plus en plus utilisés dans les groupes du panel qu'on a observé. En termes de type de financement, finalement, les instruments sont très variés. Là, on vous a recensé ce qu'on a pu observer, avec une majorité qui sont des Sustainability Linked Bonds ou Revolving Credit Facility, les Green Bonds qu'on connaît bien aussi, mais on a pu observer également des Green Bonds liés à l'innovation ou d'autres financements. Sur ces type d'instruments, les critères à atteindre, l'idée et la recommandation, c'est de les discloser dans les états financiers. On a 5 groupes qui ne les présentent pas. En revanche, sur les autres, on a une majorité liée à l'atteinte d'objectifs environnementaux. Mais ensuite, ça peut être sur tout un tas de KPI très différents ou sur le développement de certains projets particuliers au sein des groupes. Donc, une grande diversité sur ce sujet-là de financement, mais un recours croissant.
Merci beaucoup, Marion. Ça clôt cette partie état financier, côté préparation. Maintenant, on va passer à la dimension audit. Et pour cela, je passe la parole à Cédric Hazer, associé signataire, donc soumis à cette question d'opinion et de Key Audit Matters. Cédric.
Merci Olivier, bonjour à tous. Alors effectivement, dans le cadre de ce même benchmark, on a également analysé ce que les auditeurs ont mentionné au regard des enjeux climat dans leur rapport sur les comptes 2020 et 2021. Vous savez, le rôle des auditeurs et leur diligence sur le sujet sont une attente des parties prenantes, et en particulier les investisseurs et les autorités de marché. Il nous a semblé utile de regarder sur ce sujet aussi quelle était la dynamique observable. Alors concrètement, l'auditeur, il est susceptible d'intervenir à plusieurs moments de son audit et à plusieurs niveaux sur ce sujet. D'abord, au moment de définir son approche, et c'est un moment clé, c'est un moment important, se poser les bonnes questions, mener les bonnes analyses pour identifier si et comment il doit prendre en compte l'enjeu climatique dans ses travaux. Alors, je vais donner l'exemple de PwC, que je connais mieux. Chez nous, on a sensibilisé, formé toutes nos équipes d'audit partout dans le monde à ce sujet. Et on a intégré ce qu'on appelle une étape de travail dans nos approches, c'est-à-dire une étape qui oblige l'ensemble des équipes à se poser la question de savoir si le risque climat doit être intégré comme un risque important et doit être traité en tant que tel dans le cadre des travaux d'audit. Et cette approche, elle est systématiquement revue au plus haut niveau des équipes, donc par les associés, lors de la construction de l'approche d'audit. Deuxième moment important, essentiel, ce sont évidemment toutes les interactions avec les sociétés. Le fait de porter le sujet auprès de ceux qui seraient insuffisamment sensibilisés, il y en a de moins en moins heureusement, et puis de le porter au bon niveau, c'est-à-dire non seulement au niveau de la direction financière, mais aussi du management et de la gouvernance, afin de s'assurer que l'analyse a été menée par l'entreprise et qu'un dispositif a été mis en place pour adresser ce risque climatique et le traiter correctement. Et là encore, un gros travail a été fait cette année, j'y reviendrai. Et puis enfin, et c'est ce qu'on retrouve sur les deux planches qu'on va présenter là tout de suite, puisque c'est la seule donnée publique accessible à tous, mais il y a ce qu'on va retrouver dans les rapports des auditeurs. C'est-à-dire, est-ce que les auditeurs ont fait mention dans leur rapport du risque climatique et comment ce risque a été abordé dans les travaux, soit au moment de l'approche, et certains rapports mentionnent cette appréciation du risque au moment des approches, ou alors dans les conclusions des auditeurs, et en particulier, on va le voir juste après, dans les différents points clés de l'audit. Alors, ce qu'on voit sur la planche qui est sous vos yeux, c'est qu'il y a une dynamique très claire qui s'est établie entre 2020 et 2021, puisqu'on voit que ce soit au niveau du CAC 40 ou au niveau de l'Eurostoxx, on a quasiment doublé le nombre de rapports qui mentionnent le risque climatique à différents points des conclusions des auditeurs. Et si on zoome un petit peu plus avant sur la page suivante, sur ces mêmes conclusions des auditeurs, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux tendances principalement qui se dégagent. La première, c'est que le sujet du risque climatique est pour l'essentiel abordé dans les points clés de l'audit. Mais certains auditeurs ont néanmoins abordé ce point soit dans un paragraphe dédié, soit dans la présentation de leur approche d'audit. Et c'est d'ailleurs une pratique qu'on retrouve de façon plus répandue qu'en France dans d'autres pays d'Europe, le fait de mentionner le risque climatique dans la description de l'approche, par exemple. Et puis si ensuite on zoome plus précisément, plus en détail sur les points clés de l'audit, ce qu'on voit très clairement, c'est que le risque climatique se retrouve principalement ou presque essentiellement sur deux points clés que sont les valeurs d'actifs d'une part, et on en a déjà beaucoup parlé autour de cette Webex, et puis le deuxième sont les provisions qui sont bien souvent aussi des points clés de l'audit. À noter qu'un groupe, Total Energy pour ne pas le nommer, a vu ses auditeurs consacrer un point clé de l'audit spécifique au risque climatique et plus précisément à la transition énergétique. Et ça, c'est une pratique qui se distingue cette année sur le CAC 40. Donc, en conclusion, pour aller très vite, on se l'est dit déjà plusieurs fois sur ces sujets, Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc, il est au moins aussi intéressant et important d'observer la tendance et l'évolution d'une année sur l'autre. Et là, je crois qu'elle est très claire. Et puis aussi de voir que l'ensemble des parties prenantes, et j'en mentionnais deux essentielles tout à l'heure, que sont les investisseurs et les autorités de marché, dialoguent, travaillent ensemble pour faire progresser ce sujet, y compris dans les rapports d'audit. Et donc, on en a le résultat maintenant sous les yeux avec une, comme on le disait, une évolution assez significative par rapport à l'année 2020.
Merci beaucoup, Cédric. Alors, passons maintenant à notre dernier volet. Non, pas dernier volet, mais en tout cas, les réactions par rapport à ces constats. Et une première question à Claire Berthier. Est-ce que, Claire, vous avez la perception que les actions conjuguées des initiatives des divers groupes d'investisseurs portent leurs fruits? Est-ce que vous voyez des progrès?
Alors, écoutez, je dois tout d'abord dire que oui, je suis ravie de voir que certaines choses avancent. Effectivement, en particulier, on arrive, nous, sur les, sur les conclusions, par exemple, de la TCFD, du mention d'un TCFD dans les comptes, à peu près à la même chose que vous, c'est-à-dire qu'on arrive à peu près à 89% des sociétés qui mentionnent cela dans, les, dans leur rapport annuel, donc très bien. À peu près la même perception en termes de gouvernance où ces sujets sont maintenant bien traités au plus haut niveau des entreprises. Cependant, en termes de perception des conclusions, oui, il y a une amélioration, mais au sein du benchmark, on arrive quand même à un constat beaucoup plus négatif que ce que vous présentez actuellement, puisque il n'y a malheureusement actuellement aucune société qui réponde aux demandes qui ont été faites au sein des sur les 166 qui sont présentées dans le benchmark. Donc effectivement, aucune société qui répond à ces demandes d'intégration du risque climat dans leur compte. Cependant, ce qui est très intéressant de remarquer, c'est qu'il y en a 6 qui répondent partiellement et qu'en fait, ces 6 sont des sociétés qui ont été engagées activement par les investisseurs depuis plus de 2 ans. Donc, ce qu'on constate, c'est que au terme de nos discussions, d'un dialogue établi depuis de nombreuses années, on voit qu'un engagement actif amène à de meilleures pratiques. Donc oui, grâce au dialogue, on a à peu près plus de 40% des sociétés avec lesquelles on s'est engagé qui se sont améliorées. Le dialogue reste ouvert, on sait que Rome ne s'est pas fait en un jour. Et donc, c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. Et donc, on sait qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Et on le voit, on ne parle pas forcément tout le temps la même langue, mais on est ravis de voir que de plus en plus, on peut se parler et que les choses avancent.
Merci Claire. Donc, effectivement, c'est pour engager et maintenir cette ligne de dialogue que on vous a invité et qu'on vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Alors, je vais poser la même question à Marie en tant que régulateur. Est-ce que sur la base de vos premiers constats, vous avez la perception que les recommandations de l'AMF et de l'ESMA ont été suivies?
Après, effectivement, nous aussi, c'est un sujet qu'on est en train de regarder dans le cadre de nos revues, où bien sûr, un certain nombre de nos revues, l'approche par les risques qu'on a, on fait qu'on a choisi un certain nombre de sociétés qui étaient particulièrement exposées à ces sujets, où on essaie de comprendre, bien sûr, l'information qui a été donnée, mais au-delà de ça, les analyses qui ont pu être faites et les réflexions qu'ont pu avoir les sociétés. On se félicite aussi du benchmark qui a été montré, où on voit que finalement, il y a quand même eu une avancée. Ce qu'on avait toujours dit en tant que régulateur, c'est que c'était une première étape l'année dernière, qu'il fallait engager les réflexions, mais qu'elles prendraient du temps. Donc, je pense qu'effectivement, cette première étape a eu lieu. Il y a un début de choses qui ont été données dans les annexes. On se félicite aussi, bien sûr, que les sociétés françaises soient peut-être plus en avance que les autres sociétés européennes, où ça, enfin, je pense qu'on peut s'en féliciter et on peut considérer que c'est une bonne chose. Le fait que les sociétés, effectivement, pour beaucoup, mentionnent le sujet et indiquent qu'elles l'ont pris en compte, donc ça, ça nous semble important, et effectivement, qui était une demande forte hein, des investisseurs d'être déjà sûr, en fait, que c'était pris en compte dans la manière dont ils faisaient leur compte. Après, c'est vrai qu'on reste un peu sur sa faim, ou des fois, au-delà de ça, il y a quand même toujours une hétérogénéité très grande qui peut bien sûr s'expliquer par des localisations, des secteurs, etc., mais qu'on ne comprend pas toujours. Et effectivement, souvent, des explications qui peut-être ne rentrent pas tellement en profondeur sur le détail des hypothèses qui ont pu être prises, les sensibilités et les sujets développés, où on parle beaucoup des tests de dépréciation mais on peut, et des durées de vie des immobilisations, on peut se dire qu'il y a aussi, il y a aussi d'autres choses. Donc, pour conclure, je pense que c'est une première étape, mais effectivement, les choses vont continuer à avancer. Et comme l'a dit Claire, je pense qu'effectivement, c'est un dialogue entre les sociétés, les auditeurs, les régulateurs, les investisseurs qui va permettre au sujet finalement de continuer à avancer.
Merci Marie. Donc, ça fait la jonction avec notre dernière partie hein, sur les perspectives, les recommandations pour la suite. Alors, avant de vous repasser la parole, Marie et Claire, je voulais attirer votre attention sur un projet de réglementation qui a été publié par la SEC, qui est le régulateur boursier américain, et qui concerne le climat. Les propositions portent tant sur les informations à fournir en dehors des comptes que dans les comptes, et concernera tant les entreprises américaines que les sociétés étrangères, donc y compris les sociétés françaises, lorsqu'elles sont cotées aux États-Unis. Alors pour la France, cela représente une très petite minorité d'entreprises, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder les propositions qui sont faites hein, par la SEC et qui sont considérées comme étant compatibles avec les IFRS en matière de pour la partie compte. Alors je ne vais pas entrer dans le détail de la consultation publique de la SEC, hein, elle fait 500 pages, elle pose 800 questions, donc c'est pas l'idée là maintenant, mais simplement de souligner que la SEC demande un effort de transparence accru sur tous les effets du climat, sur les comptes, à commencer par les effets d'un événement climatique, par exemple inondation, incendie, ou bien toutes les dépenses qui sont encourues par une entreprise pour se prémunir contre les risques climatiques. Alors, ce qui m'amène à une première question, Marie, est-ce que, dans quelle mesure les propositions qui sont faites par la SEC au regard de ce qui est attendu dans les comptes, vous semble-t-elle complémentaire à celle exprimée par l'ESMA?
Après, c'est vrai que forcément, la proposition de la SEC pose question. La SEC propose de mettre des choses dans les comptes qui sont bien sûr demandées en Europe, mais plutôt en dehors des comptes. C'est des sujets sur lesquels, effectivement, c'est des propositions. Donc, on n'est pas encore sur des textes définitifs. Donc, effectivement, il faudra que tout le monde en tire les conséquences et réfléchisse sur ce sujet, mais je pense que c'est prématuré. Et c'est vrai que de manière plus large, nous, ce qu'on se dit d'un point de vue des comptes, c'est que toute la normalisation qu'il y a autour de ces sujets RSE, finalement, à un moment, va certainement entraîner aussi des réflexions nécessaires dans les comptes sur des sujets, par exemple, quelle est l'information sectorielle qu'il faut donner, s'il y a des désagrégations complémentaires à donner au-delà des impacts. Donc, c'est encore très tôt, je pense, parce qu'on est sur des textes en exposure draft, donc en fait encore en consultation et qui ne rentrent pas en vigueur, mais qui forcément à un moment feront se poser des nouvelles questions, j'ai envie de dire, sur les comptes.
Merci Marie. Alors Claire, je voulais revenir sur un point dont je sais que vous y êtes particulièrement attachée, c'est la question de l'utilisation des scénarios à 1,5 degré. En quoi est-ce qu'il est critique ce scénario pour les investisseurs? Et le lien entre les actions entreprises par les préparateurs, les entreprises, et puis la façon dont les comptes sont préparés.
Je pense qu'il faut garder en tête qu'en tant qu'investisseurs, nous avons nous aussi pris des engagements et que ces engagements portent la plupart du temps sur des scénarios 1,5 degré. Donc, c'est aussi dans ce cadre qu'en tant qu'investisseur, puisque nous-mêmes, nous voulons être alignés avec un scénario 1,5 degré, on demande aux sociétés dans lesquelles nous sommes investis d'avoir cet alignement. Donc, par effet de transparisation, ça arrive jusque aux entreprises et aux auditeurs. En ce qui concerne, pour faire une petite précision par rapport à ce qui était demandé à la SEC sur des impacts d'un scénario plus 2, plus 3 degrés, je pense qu'il faut là aussi reprendre, bien distinguer deux choses. D'une part, l'appréciation des risques physiques ou climatiques qui vont demander une adaptation. Et donc là-dessus, il est pour nous très intéressant de voir quelles sont les conséquences, y compris sur les comptes, d'un scénario à 2, 3 ou plus sur les comptes. Mais là, on parle bien d'un risque physique et de risque d'adaptation. Ce qui n'est pas la même chose que lorsque nous demandons les conséquences des risques de transition. Et où là, sur les risques de transition, évidemment, on va essayer de chercher des scénarios qui vont être sous les 2 degrés et le plus possible à 1,5 degré, puisqu'il s'agit là de tester des hypothèses qui seront beaucoup plus exigeantes, puisque, par exemple, rappelons que dans un scénario 1,5 degré, sur des majors de oil and gas, il ne faut plus de nouveaux développements, de nouveaux champs. Où le prix du carbone n'est plus à 150 ou 200 euros, mais bien au-delà des 250 euros.
Merci Claire, c'est très clair. Alors Marie, une autre question pour toi, puisque tu as indiqué que vous étiez un petit peu en phase d'analyse. Quel est le programme de travail de l'AMF et de l'ESMA pour 2022 ?
Après, ça ne surprendra personne. Effectivement, les travaux au niveau de l'ESMA et de l'AMF continuent sur ce sujet. L'ESMA a créé un groupe de travail ad hoc, finalement, pour échanger entre régulateurs sur ce qu'on peut voir comme pratique, les cas ou les difficultés que chacun pourrait rencontrer et effectivement essayer d'avoir une homogénéité dans la manière dont les régulateurs abordent ces sujets et une homogénéité aussi dans l'information qui pourrait être donnée à terme par les sociétés. Donc, c'est un travail, nous, de coordination qui nous semble très important parce que c'est un sujet évolutif, complexe. Donc, il nous semble que finalement, c'est important que tous ces régulateurs travaillent ensemble. Donc, on y est extrêmement favorable. C'est encore un peu tôt, mais vous pouvez aussi vous en douter, ça sera a priori un sujet des recommandations de fin d'année 2022 également. Il est trop tôt pour dire sur quel sujet exactement on portera notre attention, mais ça fera forcément, à mon sens, partie des sujets de recommandation, tant au niveau AMF que ESMA. Un certain nombre de régulateurs font aussi des études un peu plus spécifiques de ce qui peut être fait dans leur pays. Donc, nous, c'est notamment le cas en France. On va regarder de nouveau sur un échantillon, un peu comme ce qui a été présenté tout à l'heure par Marion, sur un échantillon de société, sur certains éléments, ce qui a pu être donné comme information. Pour effectivement aider aussi à cibler les recommandations qu'on pourrait avoir et les sujets sur lesquels on voudrait attirer l'attention des lecteurs, des préparateurs.
Très bien, merci Marie. Donc c'est un travail continu. Alors là, les entreprises vont se mettre en route, ont peut-être déjà démarré à se mettre en route pour la préparation des comptes semestriels, 30 juin. Est-ce que vous avez des recommandations spécifiques autres que celles que vous auriez déjà publiées l'année dernière ?
Après, pour les comptes semestriels, on n'a pas de recommandations spécifiques qui vont sortir. Après, je pense que c'est quand même des sujets sur lesquels on invite les sociétés à continuer forcément leur réflexion et pas attendre la clôture par rapport aux questions que pourraient avoir les investisseurs, par rapport à eux, ce qu'elles ont pu publier, par rapport à ce que leur père aurait pu voir, par rapport effectivement à ce que vous pouvez présenter aujourd'hui au niveau presse sur le benchmark. Donc, c'est vrai que c'est une réflexion qui, à notre sens, doit continuer et pas forcément attendre la clôture pour effectivement préparer tout ça et voir ce qui serait de leur côté pertinent de pouvoir donner. Et nous, de notre côté, effectivement, on publiera au troisième trimestre, comme habituellement, les recommandations qu'on pourra avoir sur ces sujets-là.
Merci Marie. Alors Claire, je vais vous poser trois questions. C'est la même en fait, mais qui s'adresse à trois groupes différents. Vos attentes et vos recommandations vis-à-vis des préparateurs, pour commencer, vis-à-vis des auditeurs, et puis, puisque Marie Seller est là, vis-à-vis des régulateurs. Donc, commençons par vos attentes et recommandations vis-à-vis des préparateurs. Vous l'avez déjà un petit peu dit, mais est-ce qu'on peut refaire une synthèse à ce stade ?
Eh bien, par rapport aux préparateurs, comme je l'ai déjà mentionné, ce qui se passe, c'est qu'on a intégré donc, dans le Climate Action Benchmark l'indicateur lié au compte. Et donc, je vous invite à aller sur le site du Climate Action où vous avez le détail de l'indicateur avec les trois sous-indicateurs qui sont regardés et sont notés pour les sociétés. Je pense que même si les préparateurs ne font pas partie des 166 entreprises visées. Ça peut être intéressant pour, de voir sur leur secteur quels sont les les indicateurs demandés et deux, l'analyse qui a été réalisée par Carbon Tracker des comptes pour voir quelles sont les implications au niveau des différentes parties que peut avoir le climat sur leurs comptes et qu'est-ce que ça voudrait dire avoir des comptes alignés avec l'accord de Paris. Donc sur ça, il y a à la fois un indicateur sur les comptes, un indicateur par rapport au rapport d'audit et sur l'alignement plus global avec l'accord de Paris. Je pense que ce qu'il faut avoir bien en tête, en conclusion, en chapeau général, c'est la cohérence qu'il y a entre, d'un côté, les engagements pris par l'entreprise et de l'autre, les comptes. Sur les recommandations pour les auditeurs, bah, de même, puisque en tant qu'auditeur, on note également le rapport d'audit. Et donc, il y a un certain nombre de demandes qui sont faites aux auditeurs qui ne changeront pas cette année. Et donc, c'est bien faire mention dans les Key Audit Matters des hypothèses qui ont été testées, des différents scénarios, mais également pour rassurer sur le fait que le type d'hypothèse qui a été testé et pourquoi est-ce qu'éventuellement il n'y aurait pas d'impact matériel sur les comptes. Parce que effectivement, ce n'est pas la même chose de tester des comptes sur un scénario 1,5 degré que de tester sur un scénario 3 degrés. Quant au régulateur, je pense qu'on peut vraiment saluer le travail qui est fait par l'AMF, parce qu'on le voit bien hein, par votre benchmark, il y a de réelles améliorations qui ont été faites cette année, et je pense que c'est très largement dû à la régulation et au travail de pédagogie et les demandes qui ont été faites par le régulateur. Donc encore une fois, bravo. On continue évidemment à avoir une politique très pédagogique envers les régulateurs européens. Également, il y a tout un travail qui est réalisé avec la FCA au UK, la SEC. Mais je pense que plus largement, on ne demande pas forcément, encore une fois, nous, de nouvelles normes. Et on pense qu'au sein des normes actuelles, il y a suffisamment de place et d'espace pour pouvoir discloser et donner plus de détails sur les hypothèses et sur la façon dont les comptes, dont le climat est pris en compte pour être aligné avec l'accord de Paris.
Très bien, merci Claire. Tu vois, Marie, tu as bien fait de venir. Donc, ça clôt, on va rester sur ces derniers mots, ça clôt cette présentation. Je ne veux pas, par une conclusion, altérer tous les propos que vous avez et les recommandations que vous avez exprimées. Ce que je note, hein, c'est qu'on est dans une dynamique de progrès. Pour reprendre ce qui a été dit à plusieurs reprises, Rome ne s'est pas construite en un jour et je pense que les choses sont sur la bonne pente. Donc, continuons le dialogue et nos efforts. On va passer maintenant à notre séance de questions-réponses. Il y a déjà une question de vocabulaire, on va la traiter tout de suite. Une question qui a été posée sur qu'est-ce que c'est que les risques physiques. Olivier, est-ce que tu veux répondre à cette question ? Tu es en mute. On ne t'entend pas, Olivier.
Voilà. En fait, dans ce scénario à 4 degrés, en fait, les entreprises doivent prendre en compte, a priori, le scope élargi, non seulement leurs propres émissions, mais aussi celles de leur scope 2, scope 3.
Olivier, la question qui était posée, c'est qu'est-ce que c'est que les risques physiques ?
Alors, donc, les risques physiques, c'est ce qui provient directement de l'environnement proche. Donc, à la fois les sécheresses, les inondations, les érosions, tout ce que l'environnement peut faire peser sur les chaînes de valeur. Et donc, on oppose les risques de transition qui sont plus liés à l'organisation, le réglementaire, la technologie, ce qui provient de l'organisation des sociétés elles-mêmes.
Très bien. Alors, ensuite, il y a deux questions qui sont posées plutôt sur la compréhension du benchmark. Comment peut-il y avoir 94% d'entreprises qui s'engagent à atteindre la neutralité carbone quand autant d'entreprises sont dans la trajectoire 4 degrés? Et les entreprises qui se projettent sur un scénario à 4 degrés projettent donc la fin progressive de leurs activités pour l'interrogation. Scénario évidemment non viable. Alors, je ne sais pas si Olivier, tu veux répondre.
Oui, je peux répondre. En fait, quand on se projette, ce n'est pas contradictoire. Parce qu'en fait, dans ce que demande la TCFD, c'est d'envisager des scénarios. Donc, le scénario 4 degrés, en fait, ce n'est pas une trajectoire 4 degrés, c'est plutôt un scénario qu'elles envisagent. Donc, par rapport à tous les risques qu'elles pourraient subir en tant qu'entreprise dans cet environnement-là. Et à côté de ça, en fait, elles ont leur plan pour réduire leur impact propre, donc à travers des trajectoires et donc aussi des neutralités carbone parfois.
Très bien. Alors, voilà, donc ça va clore cette conférence. D'autres questions ont été posées, mais plutôt pratiques, hein, sur les slides. Est-ce qu'elles seront mises à disposition? Donc, oui, on vous communiquera les slides et on pourra également mettre à votre disposition le benchmark détaillé. Ce que l'on vous a donné, c'est une synthèse, hein, mais on a quelque chose de plus détaillé avec également les disclosures qui ont été données par les diverses sociétés qui figurent dans le panel. Donc, ça pourra vous être communiqué. Je signale également que nous avons notre épisode numéro 13 des rendez-vous du reporting de durabilité qui, pour faire exception à la règle, se tiendra cette fois en présentiel sur les futures normes de reporting de durabilité. Ce sera une session interactive pour recueillir vos perceptions sur les propositions qui sont faites par les FRAG. Le nombre de places est extrêmement limité, donc rassurez-vous, si vous ne pouvez pas y assister, il y aura également la session plénière sera également accessible en replay. Écoutez, ça clôt cette conférence. Vous pouvez rester quelques secondes de plus, hein, un petit questionnaire de satisfaction vous sera mis à votre disposition si vous pouvez y répondre. Et je remercie beaucoup Marie Seller et Claire Berthier pour leur intervention, et puis nos intervenants externes et internes, et notamment Marion Henry qui a piloté l'organisation de cette WebEx. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.